care about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Anna Segalevitch et Fabienne Pascaud se font face à notre affiche Anna Karenine d'après Tolstoï dans une mise en scène de Gaëtan Vassard à La Tempête et Brûlez-la de Christian Siméon dans une mise en scène de Michel Faux au Rond-Point. Je passerai en fin d'émission un coup de fil à l'auteur et metteur en scène Marie Levavasseur dans le spectacle « Comment, moi, je » va être présenté au Carreau, scène nationale de Forbach. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir. Des invitations pour une visite guidée les 4 ou 5 juin pour les expositions Paul Klee et ou Pierre Paulin au Centre Pompidou à Paris, à l'occasion de l'événement proposé par France Culture et le Centre Pompidou. Imagine le week-end de la création et des idées. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'essayiste et réalisateur Pacôme Thielman, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec celui qui fut l'invité de La Dispute la semaine dernière, Michel Faux, qui a repris « Un amour qui ne finit pas » d'André Roussin, qu'il a mis en scène et qu'il joue au Théâtre Antoine et qui signe la mise en scène d'une création d'un texte de Christian Siméon, « Brûlez-la » avec Claude Perron. Le texte est publié par l'avant-scène Théâtre dans la collection des Quatre Vents Contemporains. « Brûlez-la » est un quasi-monologue, celui de Zelda Fitzgerald à la fin de sa vie lorsqu'elle est internée à l'hôpital psychiatrique Island d'Asheville, Caroline du Nord, où elle passera les 12 dernières années de sa vie avant de mourir dans l'incendie de l'hôpital en 1948. Elle avait 47 ans et dans ce monologue, Zelda revient sur sa vie et sur son grand amour, l'écrivain Francis Scott Fitzgerald.
« Je ne regarde pas Edna O'Malley, je ne regarde pas. » La pauvre. Non mais c'est terrible, cette proximité. Il y a quelques semaines, une de ses cousines est venue la voir. Et comme les visites sont interdites après les séances de cure, la cousine n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de se faire passer pour sa sœur pour essayer de la voir quand même. Ce qui évidemment n'a pas marché. Et quand Edna, qui est fille unique, s'est réveillée, on lui a dit « Votre sœur est passée vous voir ».
Ma tœur ? Donnez pas de tœur !
Et le docteur Pine a fait « Oh là là, elle ne sait plus qu'elle a une sœur, ça va pas du tout ! On lui rajoute des électrochocs !» Ah, pauvre Edna ! Enfin, pauvre ! À l'étage, c'est quand même la seule qui mange chaud après chaque séance de cure. Mais l'avantage d'avoir sa chambre près du bon plat.
Qu'est-ce qu'il fabrique en cuisine ?
Qu'est-ce qu'il fabrique ? On verra ça un peu plus tard. Anna Segalevitch, pour commencer sur Brûlez-la au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Oui, avec plaisir, parce que c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé. J'étais très heureuse de voir Claude Perron, qui est une actrice rare dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'on la voit peu finalement en scène. Moi, je l'avais découvert dans le film de Dupontel, Bernie, je crois, oui, c'est ça, Bernie. Et puis, elle avait joué aussi au théâtre il y a quelques années, au Lucernaire, une pièce où elle était seule en scène aussi, qui s'appelait Je suis drôle, dont on avait parlé, dont on avait parlé ici.
Il y a un peu plus longtemps, sous la direction d'Éric Vignier, au même rond-point, oui, dans la grande salle,
oui,
Renaud Barreau.
Non, non, elle joue quand même de temps en temps.
Mais tellement pas assez, alors voilà. Là, je vous suis à 1000%.
On la voit peu et je trouve qu'elle fait partie vraiment de nos trésors cachés. Quoi. C'est-à-dire que c'est quand même un émerveillement de la voir en scène parce qu'elle est aussi très rare dans ce qu'elle dégage et dans sa façon d'être en scène. Elle est complètement atypique. Elle a quelque chose de très dangereux. On ne sait pas ce qui va se passer. On sent vraiment une... quelque chose d'assez borderline, je trouve, dans ce qu'elle dégage. Et en même temps, on a envie de la prendre dans ses bras parce qu'elle est très touchante. Elle fait partie des actrices où, quand on les voit en scène, il y a le personnage, mais il y a vraiment aussi la femme et ce qu'elle dégage et la personnalité de l'actrice qu'elle met dans un rôle. Alors, peut-être aussi que c'est pour ça qu'elle est rare, parce que finalement, peut-être qu'elle choisit des rôles qu'elle ressent profondément en elle. Mais en tout cas, quelle belle rencontre que cette rencontre avec Michel Faux, enfin, moi, j'ai eu le sentiment que c'était un metteur en scène qui était fait pour elle. D'ailleurs, il y a presque un mimétisme entre eux. Par moments, j'ai vu Michel Faux dans sa façon de jouer tout en étant totalement elle-même. Et Michel Faux, il parle d'un écrin formel dans lequel il met ses actrices. Et en l'occurrence, il y a un écrin qui lui permet de se déployer, je trouve, absolument merveilleusement. Il y a un décor qui est très simple, qui est assez idéal, je trouve. C'est une sorte de bâtiment en papier miniature, un peu comme une maison de poupée, dont son buste dépasse et qui représente en fait l'asile dans lequel Zelda Fitzgerald a terminé sa vie, voilà, brûlée. Et elle apparaît comme une danseuse, avec un tutu romantique, des collants blancs, des chaussons de pointe, des petites ailes dans le dos et une couronne sur la tête, avec tout de même les yeux un peu sérieusement fardés et un peu dégoulinants, et un regard quand même un tout petit peu allumé. Et là, pendant une heure, elle est bon. Il y a le personnage de Fitzgerald qui est là aussi, de son mari, mais bon, de façon quand même beaucoup plus anecdotique. C'est presque un personnage
qui est un fantôme,
peu, voilà, c'est un fantôme qui fait un peu penser à un personnage,
avoir,
je trouve, whydien.
Enfin, 20 mots à dire dans
ce spectacle. Voilà, mais il est là,
il
quand même.
Il intervient et il est juché sur sa chaise d'arbitre de tennis.
D'arbitre de tennis, exactement.
Effaré.
Et là, sans être là, avec lui aussi un jeu pas du tout naturaliste. Bon. Et ce qui est étonnant, je trouve, dans ce spectacle, c'est à la fois la tenue formelle et la folie qui s'en dégage. C'est-à-dire que c'est à la fois très tenu et très fou. Pas du tout naturaliste. Hein. De toute façon, Michel Faux, ses spectacles ne sont jamais naturalistes. Il dit qu'il déteste ça. Et bon, et clairement, enfin, ça se voit.
Enfin,
c'est pas son truc. Mais ça n'est, je trouve, parce que ça peut l'être. Enfin, bon, je l'ai ressenti quelques fois dans certains spectacles de Michel Faux. Mais là, en l'occurrence, ça n'est jamais caricatural et jamais formel. C'est-à-dire qu'ils osent l'excès et de cet excès jaillit une forme de vérité et une grande authenticité. C'est une folie et quelque chose de très construit formellement, mais qui en fait nous amène au cœur du personnage.
Je reviens vers vous, Anna. Fabienne Pascaud, sur ce spectacle, Brûlez-la.
Ah, moi, je suis comme Anna, j'ai été absolument séduite et ensorcelée par Claude Perron, qui est un peu dans la posture de Winnie dans Oh les beaux jours, dans ce décor, une posture un peu beckettienne, sauf qu'elle explose de partout, on voit ses chaussons qui dépassent, son buste, elle est absolument phénoménale, féline comme ça, et elle fait peur, c'est vrai, parce qu'on l'a entendu dans l'extrait, elle est capable de rire de manière machiavélique, elle est snob, elle est cruelle, elle est méchante. Et moi, j'aurais adoré le spectacle, littéralement, s'il n'y avait pas eu ce personnage, cette facilité qu'a eu Christian Siméon de faire intervenir Scott Fitzgerald de manière totalement dérisoire, inutile et vaine, parce que le monologue se serait amplement suffit à lui-même. Et donc, je ne vois pas ce qu'apporte cette présence fantomatique, parce que quand se passe la pièce, c'est donc la dernière année de Zelda en 48. Elle va mourir, ça fait 12 ans, comme vous le disiez, qu'elle est à l'asile. Et Scott Fitzgerald est déjà mort. C'est peut-être pour ça qu'il revient. Mais il y a des morceaux de bravoure hallucinants dans ce spectacle, notamment la partie de tennis avec Ernest Hemingway, parce que elle était féroce, jalouse, et c'était réciproque, ils se trompaient beaucoup l'un l'autre, mais c'est surtout elle qui le trompait, mais elle pensait, Zelda, que Scott avait une aventure homosexuelle avec Ernest Hemingway qu'elle détestait. Et donc là, cette partie de tennis où elle a juré, toute jeune fille mince et chic, même sportive, mais quand même un peu fragile, de battre au tennis ce gros veau d'Ernest Hemingway.
Colosse.
Enfin, oui, colosse. Allez,
parce
disons
là,
colosse.
À l'époque, il était
guerrier
encore colosse.
Aguerri, oui, voilà. Et donc, elle a juré de le battre, et alors le seul moyen qu'elle trouve pour le battre, c'est de se déshabiller progressivement pour qu'il soit tellement émoustillé qu'il n'arrive plus plus à placer une balle. Donc elle va se déshabiller, enlever son soutien-gorge, d'abord sa culotte, son soutien-gorge, et c'est hilarant la manière dont c'est raconté. Donc rien que pour cette scène-là, c'est magique. Et puis on apprend des choses. Moi, j'ai appris aussi dans le spectacle que à quel point il lui avait empêché d'écrire Scott Fitzgerald.
En lui volant des pages entières.
Voilà, donc le véritable talent du couple, c'était peut-être elle.
Ah, c'est la fusion des deux, mais c'est vrai que on va pas se disputer sur ce spectacle-là, parce que moi j'étais très très enthousiaste à l'idée que Michel Faux et Claude Perron travaillent ensemble, parce qu'effectivement il y a cette même folie douce et très singulière, et en même temps une très très grande précision des deux, donc vraiment ils s'accordent parfaitement. Et puis c'est la capacité, et ça c'est assez miraculeux quand ça arrive, parce que c'est quand même pas souvent, c'est-à-dire que à la première phrase du spectacle, moi j'étais dedans. C'est-à-dire qu'elle nous fait entrer immédiatement dans un autre espace-temps. Alors en plus, le texte de Christian Simeon, il est quand même tout en rupture de ton, en reprise, en répétition.
En aller-retour, passé, présent.
Donc ça c'est vraiment aussi... Et ça, on ne perd absolument jamais le fil. Elle est toujours d'une telle justesse, précision. Elle nous emmène comme ça. Et vraiment, elle le fait avec une maestria qui est absolument réjouissante. Parce que il y a ce que vous décriviez, cette maquette de l'hôpital qui fait comme une jupe au départ, mais après on est dans un bal à Montgomery, Alabama, après on est à New York, après on est à Paris, après on est dans l'hôpital. Ce qu'elle raconte des traitements épouvantables de cette époque-là, où on injectait aux patients de l'insuline pour les faire tomber dans le coma, parce que comme ça allait aller beaucoup mieux après, on les réveillait en les gavant de sucre ensuite, enfin ça donne des choses absolument terribles, et je trouve qu'elle nous les fait absolument saisir, sentir, ressentir. Donc c'est vrai que voilà, elle est impériale d'un bout à l'autre, elle porte ça sur ses frêles épaules, Claude Perron. Enfin bon, c'est peu de choses à dire.
Pourquoi la voit-on si peu?
Ben voilà.
Si douée,
c'est ça la vraie question.
Oui, en plus, elle est très belle, c'est vrai.
C'est ça la vraie bonne question.
Elle a tout pour elle.
Alors, je sais qu'elle a fait une mini-série sur Canal+, je crois, mais je n'ai pas vu, mais tant mieux.
Mais c'est vrai que devant son talent, on se dit, zut alors, mais c'est une fille exceptionnelle.
Bon,
mais
passons...
Un trésor caché, comme vous disiez.
Passons le message, qu'il soit plus longtemps caché. Anna Sigalevitch.
Oui, et puis je pense qu'elle a en plus une palette de jeux qui est très riche et très large, parce que notamment dans les moments de lucidité qu'elle a, tout d'un coup c'est vraiment déchirant et assez bouleversant, parce que justement on voit toute la folie, on voit toute la souffrance,
sauf la fin qui est un peu excessive quand même, quand elle est par terre
et qu'elle répète en boucle
pieds, là,
oui.
Ça c'est le texte
un petit peu, ouais, c'est vrai,
c'est les faiblesses du texte,
ouais, c'est ce que je voulais dire,
mais c'est vrai que c'est fou comme elle donne tout à ressentir, comme on voit ce match de tennis, comme la tension aussi très grande qu'il y a dans la scène de la douche qui suit le match, vraiment, qui est incroyablement, je trouve,
sensuel
et tendu.
Mais le bal où elle rencontre Scott aussi, c'est pas rien quand elle le voit débarquer.
Là, c'est pas rien,
c'est
non
prodigieux,
plus.
C'est prodigieux, on y est, on le voit arriver.
On le voit complètement. Non, mais on voit tout arriver. Hein. Enfin, c'est vrai qu'elle elle a
c'est
une
sorcière qu'il faut brûler.
Ben oui, c'est la sorcière.
Exactement. Son obsession pour la danse aussi. C'est là aussi, ça pourrait être tellement ridicule à 40 ans de d'esquisser des pas de danse.
Ah oui, oui.
Non,
là,
non, mais
oui.
D'esquisser des pas de danse quand on n'est pas vraiment danseuse, etc. Et elle fait ça avec une, je trouve, avec un humour, un panache et une grâce exceptionnelle, parce que en fait, elle décrète qu'elle va devenir danseuse.
Donc tout le monde lui dit, Scott lui dit, c'est un peu tard,
c'est
ma chérie.
C'est un peu tard, etc. Elle dit non, je vais devenir danseuse. Donc elle fait de la danse toute la journée. Et il y a d'ailleurs pendant tout le spectacle, en fait, la musique du ballet de Balanchine, la chatte qu'on entend au début, etc. Et qui revient. Elle se transforme en chatte, etc. Mais enfin, je trouve que dans la mise en scène, vraiment, tout est réussi.
Fabienne Pasco.
Oui, sauf l'écriture un peu, je dirais, et la présence de Scott.
Oui.
Ridicule.
Bon, d'accord, la présence de Scott, ridicule. L'écriture, bon, la toute fin, effectivement, est un peu forcée.
Non, mais c'est un peu linéaire et systématique, mais en même temps, ils arrivent à en faire une matière de jeu qui...
Je crois que c'est une commande, en plus, de Michel Faux à Christian Simeon, et je trouve que la commande est très joliment reçue et interprétée par Christian Simeon. Voilà, ça aurait pu être un texte
de plus grande souffle.
C'est un spectacle qu'il faut absolument voir. Ça se joue à 18h30. Ça dure une heure, à peine plus. C'est idéal.
Que du bonheur.
On sort du travail, on va au théâtre, on a encore sa soirée après. Il faut y aller, y retourner, emmener des gens. Si vous voulez faire plaisir, même avec une histoire qui est effectivement terrible, hein, parce que c'est, encore une fois, on ressent des choses très violentes sur le destin de cette femme, qui était, on ne l'a pas dit, mais une jeune femme extrêmement libre dans un sud des États-Unis qui, à l'époque, ne l'était quand même pas beaucoup, surtout pour les jeunes filles. Qui prend
enfin, elle, c'était quand même une jeune fille très aisée.
Oui, mais quand bien même.
La situation de ses parents permettait beaucoup de choses.
Oui, mais y compris de les affronter. Et d'aller contre différents
d'avoir
tabous.
Plein d'amants et d'avoir plein d'amants à une époque et de boire comme un trou voilà. À une époque où c'était peut-être pas très recommandé.
Sacrée Zelda. Bon, il faut qu'on recherche ses écrits pour en savoir un petit peu plus. Pour l'heure, c'est Claude Perron qui est Zelda dans ce spectacle. Brûlez-la, texte de Christian Siméon. La mise en scène est de Michel Faux. C'est jusqu'au 19 juin au Théâtre du Rond-Point à Paris.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure d'Anna Karénine, vue par Gaëtan Vassard, c'est le théâtre de la Tempête. Avant cela, on retrouvera l'invité de La Dispute, l'essayiste et réalisateur Pacôme Thielman, mais il est tout d'abord l'heure de la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute avec Antoine Guillot. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. C'était presque devenu un running gag qui en l'occurrence ne faisait rire personne, rappelle Gilles Renaud sur le site de Libération. Plus de 600 jours durant, le théâtre de la Cité Internationale a continué de tourner sans direction. Le suspense a pris fin vendredi avec la nomination de Marc Le Glatin, directeur du théâtre de Chelles depuis 2000, accompagné de Claire Dupont, directrice du bureau Les Productions théâtrale. Si le titre de directeur donné à Marc Le Glatin, par ailleurs comédien et metteur en scène, ne supporte aucune ambiguïté, la fonction de Claire Dupont paraît plus ambiguë. Désignée comme accompagnatrice, celle qui est aussi maître de conférence à Paris 3 et fut chargée pendant 5 ans des relations avec le public au Théâtre de la Tempête, dirige actuellement un bureau de diffusion, production et relations publiques, les productions théâtrales, qui collaborent avec le TCI et dont il n'est, semble-t-il, pas prévu qu'elle devienne salariée. Ce dernier aspect, la capacité à trouver des financements, a sans doute pesé dans un contexte, rappelons-le, de baisse de subventions, analyse Emmanuel Boucher sur Télérama.fr. En 2018, la fondation de la CTU aura réduit de moitié sa contribution et ne consacrera plus alors au théâtre que 1% de son propre budget. Le nouveau patron devra donc composer avec la diminution d'un apport financier de 55%, soit une baisse de 480 000 euros étalée sur 2 ans, de 880 000 euros en 2016 à 400 000 en 2018. Quelle tristesse, commente Télérama, au regard de l'utopie qui a fondé il y a 100 ans cette cité internationale, dont le théâtre était l'un des piliers. Il est trop tôt pour se prononcer sur le projet de Marc Le Glatin, qui assurait jusqu'à aujourd'hui une bonne programmation au théâtre de Chelles, scène conventionnée pour le théâtre par l'État, en soutenant de jeunes compagnies comme celle de Guillaume Barbeau. On peut néanmoins penser que ce nouveau projet ne sera pas facile à mener, tant le cahier des charges est lourd. Travailler avec 2 écoles de théâtre de la région, l'ESSAD et l'école de théâtre du pôle d'enseignement supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, tout en étant lié à la recherche universitaire, en continuant de soutenir des artistes confirmés et en menant une politique d'accès à la culture sur le territoire de la cité universitaire et alentour. Néanmoins, dans cette nouvelle aventure, Marc Le Glatin devrait être libre de s'y prendre comme il le souhaite, ayant les coudées franches vis-à-vis de la fondation. À partir du 1er septembre 2016, le Théâtre de la Cité Internationale aura le statut d'une association indépendante dont il prendra la présidence. Pas de happy end en revanche pour la comédie italienne. Le samedi 23 avril, après la dernière d'une joyeuse et délirante villégiature, ce haut lieu parisien de la Comédia dell'Arte a fermé ses portes. Triste fin, commente Mathieu Pérez dans Le Canard Enchaîné, pour cette aventure commencée il y a 42 ans, soutenue alors par le gratin de la culture de Strehler à Beck, en passant notamment par Mastroianni et Cartier-Bresson. Défendre cet art de la comédie, Attilio Maggiulli y a consacré sa vie. « Nous sommes les seuls à faire ça », s'exclame-t-il. « Ce théâtre est unique au monde et c'est une vraie troupe. Je me sens humilié par des gens qui n'ont toujours pas compris que la rentabilité n'était pas tout. » Si l'année 2015 a été terrible pour les compagnies et les salles de spectacle indépendantes, baisse des subventions et de la fréquentation, le maestro paye surtout son petit coup de folie de décembre 2013. On l'avait raconté ici, il avait foncé en voiture sur les grilles de l'Élysée pour dénoncer la baisse drastique des subventions, passée de 60 000 à 12 000 euros. L'État lui a retiré ses subventions. La ville se scandalise. Armel Héliot dans le Figaro répond avec une vulgarité indigne aux spectateurs qui s'inquiètent du sort du théâtre. 2 à 3 spectacles par an joués par les mêmes comédiens. Selon la conseillère culture d'Anne Hidalgo, ce manque de renouvellement ainsi que la faible diversification des publics a conduit légitimement les tutelles à se désengager. Madame la conseillère n'a pas souvent franchi la porte du théâtre. Elle saurait au contraire que le travail en direction des enfants est remarquable, assure Armel Héliot, et que toutes les générations se retrouvaient ici rue de la Gaîté et beaucoup d'étrangers, car le lieu figure comme une rareté parisienne dans presque tous les guides de voyage. La région, elle, n'a pas lâché le fils italien, mais cela ne suffit pas. Dans cette ville qui a laissé mourir Goldoni dans la pauvreté, rue du Sou, le 6 février 1793, on laisse mourir le théâtre qui lui était dédié. C'est moche, vraiment moche. La ville de Paris est snob et inculte. Elle l'a déjà prouvé avec le 20e théâtre. Il y a tout de même dans cet océan de snobisme et d'inculture une nomination parisienne qui a trouvé grâce aux yeux du Figaro, celle fin avril de Laurence de Magalès et Stéphane Ricordel à la tête de Paris Quartier d'été. Fondateur en 1990 à la demande de Jack Lang de ce festival, Patrice Martinet l'a dirigé depuis, tout en prenant en main les destinées du théâtre de l'Athénée en 1993. C'est cette année-là que Laurence de Magalès, Stéphane Ricordel et leurs amis fondent les Arceaux, compagnie mémorable dissoute en 2007. 2 ans après, ils prenaient la direction du Montfort, dans le 15e arrondissement de Paris, qu'ils ont redynamisé. C'est un excellent choix qu'ont fait les tutelles en leur confiant en plus Paris Quartier d'été, souvent accueilli au Montfort. Se félicite donc le quotidien de la Serbe Armel Héliot.
C'est de vous le qualificatif, hein, Antoine Guillot ?
Bah écoutez, snobisme, culture.
Bon. Alors, si on remonte le temps, Paris Quartier d'été, Fabienne Pascaud.
Ah, moi, je trouve que c'est une bonne idée de cette nomination. Ils ont beaucoup de talent, ces deux artistes qu'avait nommé Christophe Gérard au théâtre Sylvia Montfort, avec beaucoup de flair. Patrice Martinet faisait du bon boulot aussi. Il avait de moins en moins de moyens. C'était de plus en plus difficile de trouver des lieux pendant l'été. Mais c'est vrai que quand on dirige un festival très longtemps, il y a un moment où ça s'essouffle. Donc, je pense qu'il faut repousser. C'est surtout le concept de Paris Quartier d'été. C'est entre le festival d'Avignon, le festival d'automne. Quel est le rôle d'un festival estival à Paris ? Est-ce que c'est pour les étrangers ? Est-ce que c'est pour les Parisiens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ? Il faut repenser tout ça. Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est dehors ? Est-ce que c'est dedans ? Mais c'est passionnant.
Ah oui, c'est passionnant parce qu'il faut une offre théâtrale de spectacle dans la capitale de ce pays pendant l'été.
Alors je pense que nos deux patrons du théâtre Sylvia Montfort font ça à merveille.
Ils ont du pain sur la planche en tout cas.
Exactement.
Ce sera donc pour l'édition 2017. Ce sera leur première à ce moment-là, celle qui arrive et la dernière donc de Patrice Martinet à ce poste. Vous avez un commentaire ?
Non mais moi je trouve que c'est bien aussi parce que c'est vrai que la programmation du Montfort elle a un vrai éclectisme avec des choses très très pointues.
Et un vrai sens du public.
Oui, et un sens du public absolument. Donc, et pour toutes les générations, etc. Donc je pense que ça colle très bien effectivement à ce festival. Et puis moi, je suis un peu comme Armel Héliot, hein. Je suis triste pour la comédie italienne
c'était d'une médiocrité à pleurer.
Non, je suis pas d'accord.
Vous avez vu disputer vous.
Alors moi, j'y suis
beaucoup
pas allée
plus que vous.
Bon, alors, vous aimez vous faire du mal alors.
Mais moi j'ai vu au moins 2-3 spectacles à la comédie italienne et je trouvais que c'était de bonne facture. Voilà, c'est évidemment que c'est pas la révolution, mais c'était
écoutez,
bien fait.
Il y a plus de Maréchal Ferrand non plus.
Oui.
Un moment où, quand ça ne correspond plus à un goût du public, à la comédie italienne, il y en avait du temps de Marivaux, hein, qui la plupart de ses pièces, elles étaient faites pour les acteurs italiens, ça a disparu. Là, il faut faire des choix. Une politique culturelle, c'est une politique qui fait des choix, même s'ils sont parfois douloureux, même s'ils sont parfois injustes. Je pense qu'il y a d'autres lieux à soutenir et d'autres créateurs à soutenir aujourd'hui qu'Attilio Maggiulli.
Et Paris 20e, puisqu'il était fait allusion dans ce...
Bon, je ne les aurais pas beaucoup défendus non plus, moi. Mais j'aime beaucoup Armel Hélio, que je ne trouve pas si acerbe que ça.
Oui, sauf contre Séverine Chavrier, contre laquelle elle s'est beaucoup énervée pour le spectacle sur Thomas Bernard. Oui, enfin, en disant des choses très injustes. Ah, là, mais bon.
Mais le 20e non plus, quoi. Il y a trop de théâtre à Paris. Quand est-ce qu'on aura le courage de se le dire et de faire les choix nécessaires pour mieux subventionner ceux qui le méritent et abandonnés à leur triste sort. Je sais que ce que je dis n'est pas du tout correct, mais ceux qui ne le méritent pas.
Les principes de réalité. Alors, celui qui est en train d'être abandonné, c'est quand même le théâtre de la Cité internationale, parce que si on regarde bien les choses quand même, c'est-à-dire qu'on demande à ce théâtre des missions supplémentaires en diminuant le budget, puis le passage, ce que j'ignorais, en société, en association indépendante au 1er décembre, ça laisse augurer quand même un désengagement total à venir, non? C'est pas ce qu'on peut imaginer, Fabienne Pascot?
Oui. C'est ce qu'on peut craindre, je suis comme vous, un peu dans l'expectative.
Parce que pour le coup, c'est un lieu qui avait une vraie identité, singularité.
Au milieu d'une communauté estudiantine, donc on peut penser que là, le théâtre a aussi un rôle à jouer, mais bon.
Bon, là, sur ce choix-là,
on se pose des questions. Je suis assez dubitative.
Anna Sekalevich ?
Non, moi, j'ai pas plus d'opinion.
Pas mieux ? Non. Bon, c'est quand même une chose étrange d'en demander tant, tout en donnant beaucoup moins. Bon, c'est un peu curieux. Nous verrons ce que son nouveau directeur, Marc Le Glatin, fera.
Des mécènes ?
Oui, il cherche de l'argent, j'imagine, mais comme tout le monde. Oui, bon, passons à autre chose. Autre chose, ce sera dans quelques minutes Anna Karénine, d'après Tolstoï, mise en scène de Gaëtan Vassar, avec Goldshift et Farahani dans le rôle-titre, à La Tempête, la cartoucherie de Vincennes. Avant cela, on va retrouver, nous, l'invité de la dispute, l'essayiste et réalisateur Pacôme Thielman, dont on peut retrouver la toujours riche actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Pacôme Thielman, invité évidemment idéal de cette séquence, puisqu'on sait vos goûts multiples et variés. Mais alors, s'il y en a un sur lequel j'ai peu de connaissances a priori, c'est bien celui par lequel on commence, nous, le spectacle vivant, musique, théâtre, danse, cirque, cabaret, que sais-je encore. Ouais. Et ça, je ne sais pas, est-ce que vous êtes un spectateur, vous de...
Je ne le suis pas suffisamment. C'est le Zerep qui m'a ramené un peu à la salle, la compagnie du Zerep, donc Xavier Boussiron et Sophie Pérez, dont je suis vraiment très très fan. Hein. Et puis aussi, je vais voir ce qui est proche de ça, proche, c'est-à-dire ce qui a à voir avec à la fois le carnavalesque et la cruauté. Ce qui me manque, en fait, c'est la dimension freak show. S'il n'y a pas la dimension freak show ou la dimension Barnum, quoi, que eux ont vraiment, j'arrive pas vraiment à m'engager dans une aventure complète, dans un spectacle vivant. J'ai l'impression de me retrouver comme dans la rue, mais assis. Mais donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui appartienne aussi à la fois au sacré, au rituel, au poétique et à l'humour noir. Pour moi, c'est des choses qui vont vraiment ensemble. Maintenant, ceci dit, il y a des acteurs que j'aime au-delà de tout et que je suis, quelles que soient en fait les occurrences, dans leurs occurrences. Et c'est des acteurs que j'aime parce que j'aime ce que leur voix incarne. Donc, que ce soit Hermine Caragueuse, que ce soit Virginie Di Ricci qui lit Artaud de façon absolument mais stupéfiante, et ou Bruno Bléré qu'on peut voir dans les mises en scène de Clément Poirier, par exemple, de Poiret, de Shakespeare. Quand je vois ou j'entends Bruno Bléré, ben là, je me rends compte que ce que je cherche, c'est ou les monstres ou les acteurs, plus que vraiment la question de la mise en scène. Ça renvoie à un truc. J'avais lu dans un livre de Alain Cuny, Le désir de parole, à quel point, en fait, lui, il voulait faire disparaître la fonction de metteur en scène. Et chez Cuny, même chez Roger Blin qui a fait de la mise en scène, on sent c'est des acteurs qui ont été tellement proches des poètes ou tellement proches des écrivains qu'ils ont voulu une sorte de transfusion directe de la parole à la voix et de la voix au corps, et que ça passe, que ça soit vraiment, c'est comme des officiants. Et on retrouve ça chez les acteurs que j'aime aujourd'hui. Et en fait, comme des gens qui n'ont pas besoin de mise en scène. Hermine Caragueuse, c'est direct. Elle est là, elle dit Nerval ou elle dit Rainer Maria Rilke, et c'est comme si on avait fait tourner les tables.
Et est-ce qu'il y a de l'ordre de la performance pour être dans le champ des arts plastiques, mais à la frontière aussi, est-ce que ce sont des univers qui vous intéressent davantage, que peuvent proposer, oui, certains plasticiens?
Oui, certainement. Je veux dire, j'ai pas de. Mais par contre, disons que je suis pas fermé du tout à ça. Ça sera probablement au coup par coup, à la singularité, plus que quelque chose qui est déjà de l'ordre d'une culture. C'est une culture que j'ai pas. C'est une culture que j'ai pas. Moi, je suis arrivé déjà tard à toute la dimension théâtrale. Et en fait, en plus, quand j'ai compris en fait ce que j'ai cherché, à savoir finalement ce que déjà le théâtre avait aboli, c'est-à-dire le carnavalesque, enfin grosso modo, ou la fête populaire, dirait Rousseau. Donc du coup, en fait, c'est à travers le théâtre, finalement, je cherche comme à travers le cinéma ou comme à travers tout ça, quelque chose qui a été perdu ou dont il reste qu'une trace lumineuse, une sorte de divinité emprisonnée et dont on arrive à avoir quelques éclats, quelques lumières. Du coup, peu importe le nom qu'on lui donne, je suis pas attaché à une pratique en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui traverse cette pratique ou ce que la pratique fait traverser aux gens qui la font, comment ils ont été métamorphosés par elle. Pareil sur la question des acteurs, il y a des cinéastes que j'aime, qui sont des cinéastes qui travaillent avec des acteurs exactement comme je m'intéresse aux acteurs quand je vais les voir au théâtre. C'est-à-dire quand c'est Cassavetes ou Rivette, on voit bien que leur question, c'est d'arriver à faire disparaître la rampe émotionnelle qu'il y a entre l'acteur et le spectateur. Et c'est ça qui, moi, me parle le plus.
Et quand vous avez travaillé sur Prélude à l'agonie du Zerep, c'était effectivement aussi quelque chose qui était de l'ordre à la recherche de la forme perdue, qui était une revisitation à la fois du boulevard, du show de Buffalo Bill, de toutes sortes de revenants et de frics. Là, vous étiez dans votre élément.
Alors, on peut dire qu'en tout cas, c'était, on ne pouvait pas trouver plus idéal pour me convaincre de travailler avec une troupe à ce moment-là, c'est sûr, oui, de pouvoir détourner une pièce, les pièces de Courteline, donc c'était une sorte de variation sur le style du théâtre de Courteline, et joué par trois nains, et c'était juste magique. C'était, moi j'aurais presque rêvé même partir en tournée avec eux, pourquoi pas, j'aurais été dans une toute petite, dans une caravane à taille plus petite, je me serais un peu baissé, je suis pas très grand moi-même de toute façon.
Ça vous a fait quoi d'entendre, de voir ces mots sur lesquels vous aviez travaillé sur un plateau?
Ah, incroyable. J'avais l'impression d'être dans l'autre monde. Je vais vous dire, c'était de l'ordre du jugement dernier. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est soudain, ce que vous avez fait, vous appartient plus. Alors c'était que justice, puisque en fait, en même temps, ça appartenait un peu beaucoup à Courteline aussi, même si je l'avais réécrit. Donc, grosso modo, je me retrouvais, je sais pas quoi, enfin, disons que là, d'un coup, je me retrouvais à la place que Courteline avait quand je commençais à écrire. Donc, de l'autre côté. Mais c'était une mort très agréable.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant en nous rendant à La Tempête, à la Cartoucherie de Vincennes, pour y découvrir sur scène la comédienne iranienne Golshifteh Farahani qui joue le rôle-titre d'Anna Karénine de Léon Tolstoï, adapté et mis en scène par Gaëtan Vassar. C'est une première en France. Anna Karénine, parue en 1877 en feuilleton dans le Messager russe, un roman qui suit le parcours d'Anna Karénine, jeune femme mariée à Alexis Karénine, un homme important dans l'État, mère d'un jeune garçon, Sergueï. Anna Karénine qui se rend à Moscou chez son frère et qui, en descendant du train, croise le comte Vronsky. C'est le coup de foudre et le début de drame.
Anna, que je suis heureuse de te voir.
Daria, moi aussi, je suis tellement heureuse de te voir.
Qu'est-ce que c'est?
Vraiment pas grand-chose.
Oh, des pralines de Saint-Pétersbourg. Il fallait pas. Merci, Anna.
Elle doit être au courant, forcément.
Dolly, il m'a tout dit.
Je suis désespérée.
Dolly, ma chérie, je ne veux pas te parler en sa faveur ni te consoler, c'est impossible. Laisse-moi simplement te dire que je te plains de tout mon cœur.
On ne saurait me consoler. Tout est perdu après ce qui s'est passé, tout.
Mais Dolly, que faire? Quel est le meilleur parti à prendre dans cette affreuse situation?
Tout est fini, il n'y a plus d'espoir. Il m'a fait trop mal. Le plus terrible, vois-tu, c'est que je ne peux pas le quitter ou aller. Je suis liée à lui par les enfants. Mais je ne peux plus vivre avec lui. Fini, rideau! Le voir, ne serait-ce que le voir, est une torture pour moi. Sans les enfants, je serais déjà partie. C'est une folie, une immense folie. Faut être bien sotte, hein? Non, mais je vous demande un peu. Non, mais quelle cruche! Un enfant encore, deux, trois à la rigueur, mais six! Comment voulez-vous quitter votre mari dans ces conditions? Six enfants! Et encore, je compte pas les morts en couche, hein, ça ferait neuf! Notez que nous ne sommes pas les plus mal lotis, hein, parce qu'aller voir dans les campagnes, c'est pas joli, joli. Non, là, six enfants, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ne faites pas cette erreur, les filles! Ne faites pas cette erreur! Oh oui, sans les enfants, je ne sais pas.
Mais Dolly, tes enfants sont plus charmants les uns que les autres. T'as une chance folle!
Une chance folle, d'accord, mais quand même, ça fait beaucoup. Tu as raison, je les aime. Parce que je les aime, mes petits chéris. Mes petites crevettes. Mes petits bouchons. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis malheureuse!
Dolly, il m'a tout dit, mais je voudrais entendre ta version des faits. Dis-moi tout.
Si tu veux.
Ah, on va tout savoir. Mais là, on entendait Golshifteh Farahani et Emeline Bayard, sur le cas de laquelle je reviendrai dans un instant. Mais d'abord, Fabienne Pascaud, pour commencer sur Anna Karenine à la tempête.
Bien, moi, je dois dire que ça a été une bonne surprise que cette Anna Karenine qui avait été... dont l'adaptation remonte à très très loin, qu'on n'avait pas vu jouer depuis très longtemps au théâtre. Moi d'abord, j'ai redécouvert le roman et la force et la violence d'Anna Karénine, qui 20 ans après Emma Bovary, puisqu'Emma Bovary a été écrit en 1857, là ça date de 1877, elle ose son désir, elle ose rompre avec la société, elle ose ne pas avoir peur du non-dit, bref, de toute cette société moscovite qui la juge et la stigmatise parce qu'elle a quitté son mari et quitté son enfant, et elle va au bout de son destin. Donc, évidemment, les moyens dont dispose Gaëtan Vassart, jeune dramaturge belge de 38 ans, ne sont pas énormes. Donc, le décor, le dispositif se joue de peu. Il joue l'éclectisme pour vaincre cette pauvreté visible du plateau et de sa compagnie. Mais moi, j'ai trouvé les comédiens très bons, j'ai trouvé l'adaptation pas si mal. Les références picturales, aussi bien à Boyce qu'à Jacques Brel, puisque la fameuse scène du bal, eh bien, il danse sur quoi déjà?
La
valse à mille temps. Moi, j'ai trouvé ça éclectique et finalement de bon goût, nous rendant toute la modernité du personnage d'Anna Karenine. Et je dois dire qu'en tant que spectatrice, j'ai été totalement hypnotisée par la beauté de j'arrive jamais à prononcer son nom, Farahani, qui pour moi dépasse tout, quoi, dépasse même la jalousie féminine. Elle est là, on ne voit qu'elle, elle est d'une grâce folle, elle est envoûtante, elle est magnifique, c'est un objet d'art sur scène quand elle se déplace, elle est merveilleuse et on la contemplerait, quoi. C'est la beauté sur scène et en même temps très simple, très naturelle, ne la ramenons pas, elle est magnifique et je dois dire qu'elle a son public puisque quand je suis allée à La Tempête, de toute ma vie de spectatrice, je n'ai jamais vu la Tempête aussi pleine et de jeunes spectateurs.
Le soir où nous étions ensemble, Anna,
c'est
étonnant. Complet.
Et si grâce à elle, il découvre Anna Karenine, c'est pas mal.
Ça fait double bingo.
Voilà. J'ai pas parlé de la mort omniprésente, mais j'en parlerai si Anna n'en parlera pas. pas après.
Bon, Anna, pas Karenine.
Je vous laisse la mort, Fabienne. Je vous laisse une le soin de parler de la mort.
Une autre Anna Segalevitch.
Bon, moi, je suis pas totalement convaincue par le spectacle. Mais je trouve
qu'il y a
des qualités.
J'ai pris des gants parce que j'étais sûre que vous ne seriez pas convaincue.
Ah bon, mais pourquoi?
Parce que c'est vrai que ça a un côté cheap. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est ce qui m'émeut, justement. C'est vraiment cette manière de faire du théâtre avec pas grand-chose, avec quatre bouts de ficelle, avec des bougies qu'on allume, avec quatre chaises qui se battent en duel sur le plateau. Voilà. Ben moi, je trouve ça bien. Je trouve ça émouvant et sympathique.
Pas dire qu'Anna soit contre le cheap, pas plus que moi, parce que quand on adule comme c'est notre cas Thiago Rodriguez, on peut pas dire que c'est l'abondance des décors et des accessoires qui fait le génie de cet homme.
C'est Thiago Rodriguez que j'aime beaucoup.
C'est quand même aussi quatre chaises et deux bougies, hein. Bon, Fabienne, pardon pour votre argument que j'ai un peu balayé vite, mais non, c'était pour défendre Anna.
Non, mais c'est intéressant de savoir ce qu'on montre. Bref, oui, l'idée de Goldshifteh Farahani, moi aussi, me paraît complètement pertinente parce que c'est une héroïne. C'est vrai que quand qu'on la voit en scène, elle fait rêver.
Beaucoup au théâtre. Hein.
Non, et au cinéma non plus. Enfin, voilà, il y a les assez doux. Moi, je trouve qu'il fait rêver et Goldshifteh Farahani qui fait rêver. C'est vrai que moi, je les regarde assez fascinée. Elle est évidemment très juste pour ce qu'elle dégage. De beauté extraordinaire.
C'est quand même
de
la
grâce,
plus belle femme de Russie, hein, c'est dans le texte.
Mais alors, c'est vrai que c'est très drôle parce que je regardais je reprenais ma petite version folio, enfin mon poche d'Anna Karenine, et le portrait qu'il y a sur la couverture, elle ressemble à Goldshifteh Farahani. C'est assez amusant, c'est un tableau de je ne sais plus qui est à la galerie Tretiakov à Moscou. Et il y a vraiment des points, enfin bon. Peu importe. En tout cas, donc ce choix de Goldshifteh Farahani, oui, bien sûr, et en plus d'être très belle, c'est vrai qu'elle a une présence. Elle a une voix.
Incroyable.
Elle vous cloue à votre fauteuil, quoi. Enfin, c'est incontestablement. Après, bon, en termes de jeu, je suis pas non plus totalement dithyrambique sur elle parce que, alors, oui, elle est pas française, donc elle a peut-être un peu de mal avec la langue, mais je trouve que son jeu est un peu général. C'est-à-dire que elle est dans l'état. Mais un état qui ne bouge pas beaucoup et qui n'évolue pas beaucoup. Donc il y a un lyrisme qui est assez beau, mais qui, je trouve, manque pour le coup un peu de rupture, d'aspérité, qui manque pour moi un petit peu de couleur. Voilà, je l'ai ressenti comme ça. L'adaptation, je la trouve réussie, parce que en effet, franchement, 900 pages en 2 heures, l'essentiel se raconte et se raconte plutôt bien. Je trouve qu'on a et on a ce qui me semble de plus important dans le roman, c'est-à-dire des personnages qui sont très complexes, un poids, une pression sociale, morale très importante, et pas de jugement de valeur sur les personnages. Et c'est vrai que ça, je trouve qu'on le voit vraiment en scène, on se dit pas, ah tiens, tel, ah, pourquoi elle fait ça, quel arpège, ça, jamais. On regarde les personnages vivre, c'est vraiment l'humain qui est mis en scène, et personne n'a tort ou raison. Voilà, c'est la vie et sa complexité qu'on nous donne à voir. Donc c'est quand même déjà pas mal.
Ça fait beaucoup de qualités.
Ça fait quand même des vraies qualités. Je trouve que le traitement des trois héroïnes, parce qu'il y a bien sûr Anna Karenine, mais il y a le personnage de Kitty qui est assez important, qui est une jeune femme qui, elle, donc aspire au grand amour, etc., qui va se tromper au départ, puis finalement épouser un homme qu'on pourrait penser par dépit, mais finalement qui la rend très heureuse, et le personnage de Dolly, qui est donc incarné par Emily Bayard, qu'on entendait tout à l'heure, qui elle est voilà, qui est un peu la cocu de service, qui est éternellement enceinte, qui subit un mari totalement frivole et volage, mais pas non plus dépourvu de sincérité. C'est un beau rôle aussi incarné par Alexandre Steiger, je trouve, le rôle de Blonsky, le frère d'Anna Karenine. Et le traitement de ces personnages est réussi aussi par Gaëtan Vassar parce que elles sont très différentes stylistiquement. Vraiment, l'écriture des trois personnages est assez riche. Il y a donc Anna Karenine qui est dans une forme de lyrisme, Kitty qui a une vraie fraîcheur, une candeur et une profondeur, je trouve, dans sa simplicité, et ce personnage de Dolly qu'on a entendu incarné par Emeline Vassar, Bayard, excusez-moi, qui est presque vaudevillesque.
Carrément.
Alors par moments c'est un peu trop, mais en même temps je trouve que ça croque un personnage qui est assez piquant, qui est plein d'humour, c'est pas une victime. Il y a une forme de panache dans l'humiliation qu'elle subit qui m'a plu. Voilà. Donc ça, c'est la, Et ça fait quand même des choses, bon. Pas mal de choses positives.
Bon, on garde le négatif pour le deuxième tour de table. Okay. On va faire ça comme ça. Pour dire que j'ai un sentiment un peu mitigé, mais quand même plutôt positif sur ce spectacle, dont les faiblesses n'occultent pas pour moi les qualités. Alors, je vous rejoins sur la qualité de l'adaptation, parce qu'effectivement, il nous raconte très bien l'histoire hein, par son adaptation, Gaëtan Vassar, les interprètes, je ne vais pas revenir sur Goldshift et Farahani. Émeline Bayard, quand même soulignée, elle a triomphé il y a peu de temps d'elle à lui au Théâtre du Rond-Point. Elle a un pouvoir comique extraordinaire, énorme. Une présence scénique qui est quand même absolument magistrale, très forte. Et comme Alexandre Steiger, qui joue donc le rôle du frère d'Anna, que vous avez souligné, c'est vrai que quand ces deux-là sont en scène, c'est quand même absolument réjouissant. Alors, je commence sur les petits bémols. Le problème, c'est qu'ils m'ont pas semblé jouer dans le même spectacle que les autres. Alors, effectivement, c'est un parti pris que de dire il y a de la comédie, et alors quasiment vaudevillesque, effectivement, dans cette version d'Anna Karenine, et il y a aussi le mélodrame. Et bon, je trouve qu'il y a quand même des moments où ça a un peu de mal à se rencontrer, d'autant plus que... Allez, j'y vais sur les problèmes, pour ce qui me concerne. Le problème essentiel, c'est quand même l'absence que j'ai... ressenti par moi, en tout cas, de passion entre Anna et Vronsky. C'est vrai que la scène de la rencontre sur le quai de gare, qui est quand même un des plus beaux coups de foudre de l'histoire de la littérature mondiale, alors, c'est un parti pris de direction d'acteur.
C'est de la faute de Vronsky. C'est de la faute de l'acteur.
Ouais, mais est-ce que vous avez senti à ce moment-là Anna Karenine dévorée par la passion?
Moi, oui.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Bon.
Mais en même temps...
Donc alors... c'est la faute de
c'est
l'acteur.
C'est la faute du comédien qui n'est pas à sa dimension, c'est tout. Ça, je vous l'accorde. Pour moi, il n'est pas... Xavier Boiffier n'est pas...
Il n'est pas le Vronsky qu'il faudrait en face de cette Anna Karenine.
Non.
Mais en tout cas, oui, bah, c'est quand même dommage... Enfin, c'est quand même compliqué de rater cette scène-là dans cette histoire-là. Vous en conviendrez, Anna Sigalevitch.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais de toute façon, cette histoire d'amour en général, pas que ce coup de foudre.
Non, parce que
mais alors,
ça
j'ai relu le passage, et en fait, chez Tolstoï, c'est pas non plus si éclatant que ça. Hein, ouais. C'est pas.
Ah, c'est sur fond de mort, justement.
Voilà,
hein.
C'est pas non plus.
Faut pas l'oublier, il se rend compte quand quelqu'un est en train de se suicider.
Exactement, et c'est surtout au bal que ça se révèle et que ça explose. Finalement, ça déborde pas lors de cette première rencontre chez Tolstoï.
C'est le souvenir des lecteurs, alors. Un vieux souvenir.
Et la mort, c'est assez joliment montré, parce que ce qu'elle regarde au début, le dos tourné au public, Anna Karenine, c'est l'image du cheval que Vronsky va tuer lors d'une course épique parce qu'il est blessé. Mmh. Donc, la mort, ça commence dès que commence le spectacle.
Mmh. Oui, oui.
Et donc, pour moi, le coup de foudre, il est aussi marqué par ça. C'est pas un hasard si elle se jette sous un train à la fin, parce que ils se sont rencontrés aussi quand quelqu'un se jetait sous un train.
Oui,
mais
c'est vrai. Mauvais présage.
Mauvais présage. Mais c'est vrai que moi j'ai davantage vu une Anna Karenine véléitaire plutôt que passionnée. Enfin, je ne me sens pas vraiment conduite par la passion, mais plutôt hésitante. Et alors qu'il doit y avoir passion, culpabilité, c'est quand même le nœud dramaturgique du personnage.
Culpabilité parce que passion. Enfin,
oui,
effectivement. Ouais.
Et moi je l'ai plus ressenti comme véléitaire dans le spectacle. Ça n'a pas été votre cas, Valène Pascoe.
Moi je suis sensible à l'argument d'Anna quand elle dit qu'elle joue générale. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, ce côté fleuve, ce côté un peu perdu, ce côté de la passion qui vous inonde et que vous ne savez plus rien maîtriser, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Vous avez des regrets, mais vous n'en avez pas. Vous pensez à votre enfant que vous quittez, mais vous suivez quand même votre amant. Enfin, et ça, je trouve que dans ce côté général, elle est généreuse et elle est formidable.
C'est pas faux ce que vous dites.
Ah, c'est vrai. Bon, j'essaie d'instiller un peu de dispute dans cette émission. Mais même si Anna se range à vos arguments, alors là, voilà.
Attendez, j'ai pas du tout développé mes arguments.
Allez-y. C'est le moment.
Non, mais je trouve que c'est pas faux ce que dit Fabienne sur le côté, effectivement, la beauté du côté général. Non, c'est pas faux. Bon. En revanche, quand vous parlez de la mort, moi j'ai été extrêmement gênée par le début. Je trouve ça dommage, je trouve ça lourd.
Les images vidéo du cheval qui
meurt.
Mais
oui, donc il va y avoir ça pendant tout le spectacle. C'est beau cette surprise de tout d'un coup la mort qui arrive au moment de la rencontre entre les deux. Pour moi, c'est totalement surligné, stabilo bossé. Le fait que ça commence, parce que bon, pour expliquer aux auditeurs, ça commence, Anna Karenine entre sur scène, elle s'assoit sur une chaise de dos. Là, en plus, on a le Requiem de Mozart, hein, donc pour faire dans la subtilité. Et il y a cette vidéo de jument qui agonise. Bon, je trouve ça très lourd, pardon, mais vraiment, c'est enfin moi ça me crispe un peu quoi. Et il y a pas mal de choses comme ça dans le spectacle que je trouve dommage parce que en fait c'est intelligent.
Russe. C'est slave.
Oh, non,
vous dites
non,
ça à Anna Segalevitch.
Attention là.
Là c'est, c'est presque un combat.
Non.
Ou une gaffe.
Non mais parce que oui, les intentions sont bonnes, il y a de l'intelligence dans l'adaptation, etc. Le traitement des personnages, oui, mais je trouve qu'on voit toutes les coutures, en fait, du spectacle. Et ça, ça m'a... Bon, moi, ça m'a gênée, voilà. Ça m'a, du coup, ça m'a un peu mise... ça m'a laissé un peu à l'écart. J'ai trouvé ça dommage qu'il y ait ces lourdeurs.
Bon.
Bah, moi, je me suis laissée embarquer par les lourdeurs. Allez, un petit coup de Requiem de Mozart, je reconnais que c'est affligeant de facilité, mais bon, c'est quand même efficace.
Oui, la chanson au Tchitcherné, après, quand on parle de révolution, on met Vysotsky. Enfin, je trouve que c'est très, très évident à chaque fois, quoi.
Oui, c'est parce que vous êtes très ruse, Anna, c'est pour ça.
Bah, voilà.
Ça résonne particulièrement chez vous, comme une évidence, mais peut-être pas pour...
Le Requiem de Mozart, quand même. Enfin,
c'est non plus, mais enfin bon. en tout cas, ça nous a tellement passionnés que voilà, on arrive au terme de cette séquence consacrée à Anna Karénine, d'après Tolstoï, mise en scène Gaëtan Vassar. C'est jusqu'au 12 juin au Théâtre de la Tempête, à la Cartoucherie de Vincennes. Puis il y aura une grande tournée cet automne, d'octobre à décembre. On pourra revoir ce spectacle à Chelles, Istres, Albi, Versailles, Chartres, Nice, Marne-la-Vallée, Châteauroux, Suresnes, Sens, Montélimar, Colombes et Cesson-Sévigny.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passé à Marie Levavasseur, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu de vendredi soir, Antoine Guillot.
Qui vous a fait gagner un film que vous aimez beaucoup, Arnaud Laporte, La belle équipe de Julien Duvivier, en version restaurée, disponible chez Pathé mercredi prochain. Il faudra attendre en quelle année Julien Duvivier a-t-il réalisé son premier film parlant, c'est la question que j'avais posée. Eh bien, c'est en 1930, c'était David Golder avec Harry Bore.
Oui, d'après Irène Nemirovski. On fait gagner ce soir, alors, des invitations pour une visite guidée, ce sera le 4 ou le 5 juin, en fin de semaine, pour les expositions Paul Klee et ou Pierre Paulin, c'est au Centre Pompidou à Paris, tout cela à l'occasion d'un événement proposé par le Centre Pompidou et France Culture, Imagine, week-end de création et des idées, parce que samedi et dimanche, de 11h à 21h, France Culture investit tout le Centre Pompidou avec de très très nombreux rendez-vous, allez donc voir sur le site franceculture.fr pour avoir la liste de ces nombreux rendez-vous. Alors, quelles questions pour gagner déjà ces invitations à se promener dans le centre.
Quel est le nom du journal lycéen auquel collaborait Paul Klee et qui fit scandale?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute. Et ce soir, j'appelle Marie Levavasseur, fondatrice de la compagnie Tourneboulet, pour parler avec elle de ce spectacle « Comment, moi, je ?», une pièce sous forme de conte philosophique adressée à un public à partir de 5 ans, c'est-à-dire tout public, qui a été créée en 2012, qui a été jouée au Festival Off d'Avignon en 2014, une création qui sera jouée au Carreau, scène nationale de Forbach, à partir de demain, 31 mai, jusqu'au 3 juin. Alors, on pourrait m'amuser à faire cela comme ça, Marie Levavasseur. Qui êtes-vous ?
J'ai plusieurs casquettes. C'est vrai que je viens du plateau, j'ai une formation de comédienne et j'ai joué dans les premiers spectacles de la compagnie. Et puis petit à petit, j'ai voulu plus m'éloigner de la scène et sortir du plateau. Et sur ce spectacle, effectivement, c'est un premier texte que j'ai écrit et dont j'ai signé la mise en scène.
Et alors, on pourrait continuer en disant qu'il était une fois « Comment moi je » été créé ce spectacle en 2012, je l'ai dit. Avant ce spectacle, il y en a eu d'autres. Deuxième question logique, d'où venez-vous ?
Ben moi j'ai une formation, effectivement j'ai fait l'école de coq à Paris et on a créé un autre spectacle, je crois que Comment moi je, ça doit être le cinquième ou sixième spectacle de la compagnie. Avant on avait Origine, un spectacle qui a beaucoup tourné, où il y a effectivement des parallèles avec Comment moi je, parce que c'était des questions philosophiques sur la création du monde, l'envie de parler de la création du monde à des enfants, de confronter cette grande histoire des origines à notre petite histoire.
Origine, hein, il y a plusieurs O à Origine, oui. Qui a une place à part évidemment en regard avec ce spectacle-ci, Comment moi je, mais s'adresser aux enfants, est-ce que c'est aussi vous adresser à l'enfant que vous avez été, à vos propres questionnements, Marie Levavasseur ?
En fait, quand j'étais petite, je me posais beaucoup de questions métaphysiques. Et donc, ça doit peut-être aussi venir de là. Et j'ai une attention aux enfants quand je crée des spectacles, mais je ne m'adresse pas qu'à eux. C'est vraiment des spectacles à partir d'eux. Il y a des choses, je pense, qui peut-être leur échappent, mais ça m'intéresse. Ça oblige à peut-être se mettre sur la pointe des pieds pour comprendre et puis continuer à donner du grain à moudre.
C'est pourquoi je disais tout public, c'est ça qui est important. Quand on dit spectacle pour enfants, ça m'agace toujours beaucoup. Les vrais bons spectacles sont pour tout public, ce qui est le cas avec Comment moi je, mais donc metteur en scène cette fois-ci, pas sur le plateau. Justement, quelles indications est-ce que vous donnez à vos interprètes pour ce spectacle en particulier ?
Moi, j'ai écrit des choses. Après, je les confronte toujours au plateau avec une grande part d'improvisation. Et puis, je reviens à l'écriture du texte. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours comme ça pour construire l'histoire, l'écriture. Et effectivement, j'ai une écriture aussi qui mélange beaucoup la marionnette, les objets. Et il y a toute une scénographie très visuelle qui se mêle aux mots. C'est vraiment un tout. Le comédien est aussi manipulateur du décor et aussi conteur de l'histoire. Donc, ça se fait au fur et à mesure, mais il y a beaucoup d'informations en fait à intégrer.
Et puis, troisième question métaphysique de base, où allons-nous vers la mort de façon assez certaine? Comment est-ce que vous abordez cette question-là dans ce spectacle?
Effectivement, puisque Comment moi je, ça posait la question de qui je suis, la prise de conscience du jeu vient aussi avec la prise de conscience du fait qu'on n'est pas éternel. Et je pense qu'on prend conscience du fait qu'on existe à partir du moment où on prend conscience que on a une fin, que les choses vont s'arrêter un jour. Donc c'était important de pouvoir aborder cette question. C'est une question d'ailleurs qui arrive que les enfants se posent à partir de 5 ans, cette prise de conscience souvent autour de la mort et de leur existence. Donc ça me semblait important de l'aborder dans le spectacle à un moment donné, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui se construit, construit sa propre identité. Et donc de l'aborder de manière assez ludique aussi et sans drame.
Et quel est le rôle ou la place du philosophe Jean-Charles Pelletier dans ce spectacle ou autour de ce spectacle ?
Cette scène de la mort, je l'avais pas forcément envisagée au départ, parce que je l'avais déjà abordée dans Origine, et je me disais c'est peut-être une question qui est redondante. On en avait déjà pas mal parlé dans le spectacle Origine, et effectivement, c'est lui qui, dans toute son approche plus pédagogique et philosophique, qui me dit on peut pas aborder la question de l'identité si on n'aborde pas la question de la mort. Et du coup, j'ai réécrit une scène, et il m'a accompagnée comme ça sur l'écriture. Il est venu en répétition, puis sur beaucoup d'échanges aussi. Il a accompagné aussi tout le côté pédagogique du spectacle.
Puis reparler de cette question, c'est aussi se dire que pour certaines spectatrices, certains spectateurs, ce sera la première fois. De toute façon, c'est ça aussi avec chaque spectacle.
Oui, et c'est ça, je pense, qui me plaît, moi, par contre, dans le fait de me dire que je m'adresse à des enfants. C'est que souvent, c'est des premiers spectateurs et ça donne un engagement, une responsabilité particulière et même souvent, d'ailleurs, parmi les parents et accompagnants, on a souvent des parents qui accompagnent leurs enfants mais qui n'ont pas une pratique, qui ne vont pas forcément à les salles de spectacle. Et je trouve ça intéressant. Voilà, on a envie de leur donner, surtout envie de leur donner envie de revenir et puis d'être sur des codes aussi où ils puissent prendre du plaisir avec leur enfant et aussi eux-mêmes. C'est-à-dire avec ces deux niveaux de lecture, qu'il y ait une partie qui leur soit aussi adressée à eux.
Voilà donc de nombreuses raisons d'aller voir Comment moi je, spectacle pour tout public à partir de 5 ans. Les prochaines représentations, donc c'est au Carreau, scène nationale de Forbach du 31 mai au 3 juin. Merci beaucoup Marie Levavasseur. Et merci à Fabienne Pascaud, Anna Segalevitch et Antoine Guillot d'avoir pris part à cette dispute avec moi. Dispute possible grâce à Marie-Aubert, Hugo Boursier, Daniel Fineau, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric. Réalisation Daniel Fineau. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Charlotte Garçon et Corinne Rondeau. À notre affiche Merci Patron de François Ruffin. Bella e Perduta de Pietro Marcello. Nous évoquerons aussi Mister Gaga sur les pas d'Oad Naharin de Tomer Eman et la nuit des séries de la psychanalyse, les déglingueuses, passage de Retz, une revue de presse culturelle, un invité de la dispute, un cadeau à gagner. Tout cela c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.